Les infos choisies
chaque vendredi de 12h30 à 13h
sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Salut à tous, salut à toutes.
Bonjour, bonjour. On est bien sur Radio Galère 88.4 FM à Marseille. Il est 12h31 et c'est parti pour 30 minutes d'infos choisies. On commence avec l'expulsion, non pas l'expulsion directe, mais l'occupation de la fac Saint-Charles en soutien à la Palestine. On a appris que tout le monde a été évacué hier soir et du coup là on va se faire un petit appel en direct avec Ella de la coordination de la jeunesse du Sud pour la Palestine. Salut Ella, bonjour.
Bonjour, salut à tous.
Bienvenue du coup sur le plateau. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous raconter un peu comment ça s'est mis en place cette occupation de ces derniers jours ?
Avec plaisir. Donc nous, on est la coordination de la jeunesse du Sud pour la Palestine. C'est un collectif assez large qui a été créé il y a environ 2 semaines. Notamment en vue de cette occupation-là. L'idée, c'était de rassembler un peu tous les collectifs et les comités étudiants qui étaient présents sur les campus de Saint-Charles, de Aix, des Beaux-Arts, de Sciences Po, etc. Et en fait, de faire un collectif plus large pour mener des actions un peu plus ambitieuses et plus impactantes au niveau de la région. Ça s'adresse en priorité à toute la jeunesse, donc que ce soit des étudiants, mais aussi des lycéens, et toute personne en formation ou salarié.
Ok.
Et puis, rapidement est venue cette question de... Enfin, pour nous, ça fait 7 mois, en fait, qu'on essaye de faire des actions au sein de nos campus, que ce soit simplement faire des réunions, tracter, faire des conférences scientifiques ou tout simplement visibiliser le génocide qui est en train d'être commis à Gaza et en Palestine. Et en fait, on s'est heurté à chaque fois à la censure de notre administration, de l'université, à plein de degrés, jusqu'à convoquer des étudiants en conseil de discipline. Et donc, pour nous, la dernière issue pour augmenter le rapport de force et instaurer un dialogue avec la direction, c'était de faire une occupation. Et donc, ça a été décidé en AG, avant-hier, et du coup on a occupé depuis 21h30 avant-hier, donc mercredi, depuis mercredi soir.
Ok.
Et donc c'était une occupation on a adressé une liste de revendications que porte le mouvement. Ces revendications, il y en a 7 environ, mais dans les principales, enfin elles sont toutes équivalentes. Mais on aimerait que la direction de l'université d'Aix-Marseille prenne position et condamne le génocide perpétré par l'État israélien, affiche son soutien au peuple palestinien et gazaoui. On a également ajouté à ça en AG la demande qu'il prenne en compte également le soutien à la résistance du peuple kanak qui est en train de se soulever. Et contre la loi pour le dégel électoral. Et ensuite, on a des revendications qui concernent donc l'accueil d'étudiants ou de chercheurs, de chercheuses, d'enseignants de Gazaoui, un accueil qui soit la mise en place de programmes pour que leur accueil soit facilité. Et ensuite, on a des revendications qui concernent directement les étudiants et les étudiantes dans la fac d'AMU, donc d'Aix-Marseille Université, qui sont la liberté de tractage politique, la liberté de simplement se réunir et d'avoir accès à des lieux au sein de l'université, parce que ce n'était pas le cas depuis le 7 octobre. Et ensuite, en troisième point, l'abandon des sanctions, que ce soit des conseils de discipline ou d'éventuelles sanctions des étudiants qui sont mobilisés dans l'occupation.
Ok, trop bien. Et du coup, on a suivi que hier, il y a eu une expulsion de l'occupation. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment ça va là depuis ça? Est-ce qu'il y a des prochains rendez-vous fixés ou comment plus globalement on peut vous soutenir là-dedans?
Alors effectivement, donc peut-être déjà dans l'ordre. Hier, aux environs de midi, le président d'Aix-Marseille Université nous a répondu. Donc, on lui a adressé en fait un communiqué qui marquait le début de notre occupation. On lui a averti qu'on occupait et on lui a fait parvenir nos revendications. Et donc, à la suite de cela, c'était mercredi soir. À la suite de cela, donc le jeudi midi, le président nous a répondu dans un mail où il ne dit absolument rien. À part que la situation au Proche-Orient le préoccupe lui aussi. Bref. Donc un ton très neutre. Et à la fin, simplement une phrase où il rappelle que c'est en sa charge de garantir la sécurité sur le campus, les allées et venues, etc. pour, bien sûr, le respect du bien vivre ensemble, selon ses termes. Mais à aucun moment, en fait, il nous somme d'évacuer les lieux. À aucun moment, il nous prévient d'une potentielle intervention de la police. Ni nous fixe par exemple un délai pour évacuer. Enfin, en gros, voilà, son message était très, fade et peu menaçant. On a eu la venue répétée en fait d'agents de police, d'agents des renseignements territoriaux qui sont venus nous voir et qui nous surveillaient pendant tout le long de l'occupation, donc étaient présents sur le campus. Mais on va dire un dialogue relativement serein, en tout cas avec toutes les personnes de l'administration. Qui sont venus nous parler et qui nous surveillaient pendant, comme je vous l'ai dit, pendant toute la durée de l'occupation. Et donc, en fait, on était en AG, donc l'AG quotidienne, aux alentours de 18h, 19h. Et en fait, soudainement, il y a des agents de la BAC en civil qui ont foncé sur les personnes qui étaient à l'entrée de la salle qu'on occupait, donc qui sécurisaient le lieu. On avait installé des barricades, etc. Donc ces agents-là de la BAC ont foncé sur nos camarades et suivi de une cinquantaine, soixantaine de CRS qui sont rentrés dans notre salle, qui nous ont encerclés et qui nous ont ordonné d'évacuer, etc., de prendre nos affaires et d'évacuer. Donc en fait, pour nous, c'est d'une part, c'est un choc parce que c'est vraiment une montée en grade dans la gradation de la part de la répression de la direction. À aucun moment, ils nous ont proposé d'avoir un dialogue avec le président, par exemple, avec les membres de la présidence. À aucun moment, il y a une médiation claire qui s'est mise en place. Non, simplement, ils nous ont envoyé les flics et les CRS. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire d'un campus à Marseille qu'il y a autant de police qui rentrent et qui menacent directement avec les armes, avec tout leur appareil, quoi. Okay. Et pour la suite, nous, on va publier évidemment un communiqué pour réagir face à cette évacuation, cette répression de l'université. En fait, c'est juste pas normal que dans une université française dont le slogan est socialement engagé, qui, selon les mots du président, veut promouvoir une conscience humaniste, en fait, ce soit ça le traitement d'étudiants qui occupent pacifiquement un lieu, qui voulaient occuper ce lieu pour organiser des conférences, visibiliser en fait simplement le génocide qui est en train de se passer en Palestine, demander un cessez-le-feu immédiat, en fait, que ce soit le sort qu'on leur réserve, c'est-à-dire juste d'envoyer et de menacer de potentiels gardes à vue et d'arrestation des étudiants et des étudiantes, c'est juste un scandale. Donc on va partager un communiqué qu'on invite tout le monde à republier. Et puis la coordination va se réunir prochainement pour décider d'action au plus vite, en fait. Parce qu'on va, on va pas s'arrêter là. C'est une première étape dans notre la suite de notre mobilisation, mais on compte pas s'arrêter là, évidemment.
Ok. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos et on reste en contact pour la suite. On continuera à diffuser en tout cas les prochaines étapes. Merci beaucoup à toi, Ella.
Merci beaucoup, avec plaisir. Peut-être je vous partage juste la page Instagram de la coordination, ouais, pour laquelle vous pouvez retrouver. Donc c'est Intifada France. Intifada France.
Intifada for France. Ok, super.
Voilà.
Merci,
donc, merci
beaucoup.
À vous. Merci beaucoup pour le soutien.
Et on reste en contact.
Merci, j'espère. Au revoir.
Merci, Ella. Au revoir. Et bah, il faut savoir que ce mouvement-là, il s'inscrit dans un mouvement quand même qui est mondial. Et par exemple, aux États-Unis, on peut dénombrer à peu près 300 occupations de campus. Et selon BDS, dans des proportions jamais vues auparavant, les universités mettent fin à leur complicité avec le régime d'apartheid israélien et son génocide à Gaza. En Europe, en Amérique du Nord, des universités ont accepté de désinvestir et d'autres se sont engagées à prendre des mesures pour se désinvestir des entreprises complices, y compris de l'industrie de l'armement israélien. Donc, de l'industrie de l'armement israélienne. voilà, donc c'est quand même, il y a des choses qui bougent un peu et quelques avancées. Même si le massacre continue à Gaza.
Et pas encore à Marseille, mais on espère bientôt.
Et au niveau international, ça y est, Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, il a requis lundi des mandats d'arrêt, alors d'une part contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, donc Premier ministre et ministre de la Défense israélien, pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment le fait d'utiliser la famine comme arme de guerre, et d'exterminer volontairement des civils. D'autre part, il a aussi demandé des mandats d'arrêt contre trois dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Diab, Ibrahim Al-Masri et Ismail Haniyeh, pour les actes commis le 7 octobre en Israël. Alors ça veut dire que maintenant, trois juges de la CPI, donc la Cour pénale internationale, vont étudier les preuves sur lesquelles se base le procureur et décider d'émettre ou pas un mandat d'arrêt contre une ou plusieurs de ces personnes. Si c'est le cas, les pays qui ont ratifié le traité de Rome, le traité qui encadre le fonctionnement de la Cour pénale internationale, eh ben ces pays ils auront l'obligation de coopérer à l'arrestation des prévenus. Alors, t'imagines bien que ça a secoué pas mal de monde, cette requête. Déjà, avant même la requête du procureur, Israël et les États-Unis s'inquiétaient de possibles demandes de poursuite, à tel point que Karim Khan a subi des pressions et des tentatives visant à entraver, intimider ou à influencer son équipe, sans préciser d'où ça venait, mais on peut un peu se douter en fonction de l'actualité. D'ailleurs, Netanyahou, il aurait même demandé à son copain américain de peser sur les pays dont sont originaires les trois juges de la CPI. Alors la Cour enquête depuis 2021 sur des crimes de guerre commis par Israël dans les territoires palestiniens occupés, des crimes qui remonteraient à 2014. Et cette action, elle avait déjà été à l'époque qualifiée d'antisémite par Netanyahou, qui commence à avoir une petite collection de casseroles au cul. Alors évidemment, côté dirigeants israéliens, la réaction, ça a été de nier les chefs d'accusation et d'accuser d'antisémitisme Karim Khan, la Cour pénale internationale, bon, un peu tous les gens qui seraient contre eux. Comme Joe Biden, ils sont scandalisés que la CPI mette sur le même plan, donc entre gros guillemets, une organisation terroriste assassin de masse, donc ça c'est le Hamas, et des dirigeants démocratiquement élus, et ça c'est Netanyahou et sa clique. Aux États-Unis, c'est super intéressant les réactions, puisque les républicains comme les démocrates pourraient ou voudraient travailler ensemble à imposer des sanctions à la Cour. Il faut préciser que les États-Unis, comme Israël d'ailleurs, n'ont pas ratifié le traité de Rome qui reconnaît la CPI, et ça dans un souci de souveraineté. Et l'administration Trump d'ailleurs avait déjà pris des mesures contre la Cour pénale internationale en 2020 pour une enquête sur des crimes de guerre des USA en Afghanistan. Ça avait consisté en un gel des avoirs aux États-Unis de certains responsables de la CPI, de l'annulation de leur visa, l'interdiction d'entrer sur le territoire. Et en fait, tout ça, c'est des mesures qui avaient été conçues à l'origine pour lutter contre les personnes accusées de terrorisme ou de trafic de drogue. Certains représentants américains estiment que la Cour pénale internationale ne dispose pas des compétences juridiques pour cette affaire. Et le procureur de la CPI, Karim Khan, il a révélé même que un de ses grands élus américains lui avait signifié directement par oral, je cite, « Cette cour a été créée pour l'Afrique et pour des voyous comme Poutine ». Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que les États-Unis ont applaudi le mandat d'arrêt lancé par le procureur contre Poutine pour les crimes de guerre en Ukraine, que Karim Khan était le candidat préféré d'Israël pour l'élection au poste de procureur en 2022. Et voilà, bah c'est un peu une conception particulière des principes de droit et de justice internationale qui vaudrait seulement contre les pays et dirigeants non occidentaux. C'est une conception particulièrement hypocrite. Et en parlant d'hypocrisie, mais c'est la marque de fabrique des macronistes, le discours du ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné fait un peu penser à un numéro d'équilibriste pour essayer de faire un peu plaisir à tout le monde. Alors autant l'Allemagne en Europe, l'Allemagne ou le Royaume-Uni par exemple ont été très critiques de l'action du procureur de la CPI, autant le ministère des Affaires étrangères français s'est contenté de soutenir la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Donc une déclaration plutôt timide avec des positions très diverses sur la question au sein même du Parti Renaissance. Par exemple, la députée Caroline Yadan, elle a écrit que la décision de la CPI équivaut, je cite, à juger les nazis et les alliés au procès de Nuremberg. Voilà le sens de la nuance, etc. Le lendemain du communiqué du ministère, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, était malgré tout reçu par Stéphane Séjourné, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Il a pu balancer au Sénat tranquille que la décision de pays européens de reconnaître la Palestine en tant qu'État est une, je cite, « attaque contre la sécurité et la souveraineté d'Israël ». Et d'ailleurs, en parlant de souveraineté, il a demandé à Stéphane Séjourné d'annoncer haut et fort que la décision du procureur général est inacceptable pour lui, pour le gouvernement français, quelle que soit l'autorité du tribunal. Et il a ajouté, c'est ce qu'ont fait nos amis du monde entier et c'est ce que j'attends de notre ami le gouvernement français. Voilà. Bref, devant la pression du ministre israélien et comme ce soutien du ministère à la CPI, il ulcère les supporters d'Israël parmi les élus français, notamment chez Renaissance et chez les Républicains. Le ministre Séjourné a quand même dû préciser par la suite qu'il y a une instrumentalisation partisane de l'action de la Cour pénale internationale et qu'il ne fallait pas faire d'équivalence entre le Hamas et Israël. Encore une fois, groupe terroriste, État démocratique, blablabla, on connaît. J'adore, moi, ces rétropédalages et ces retournements de veste là, qui font la saveur de la politique macroniste. Et enfin, le Hamas conteste aussi le fait d'être mis à côté du Premier ministre et ministre de la Défense de l'État hébreu sur ses mandats d'arrêt, puisqu'il se considère comme faisant partie de la résistance palestinienne et que la requête du procureur assimile, selon lui, la victime au bourreau. Bon, pour conclure, je crois qu'il faut en finir avec cette opposition État démocratique contre dictature. Chef d'État élu contre terroriste, monde libre contre obscurantisme, bon contre mauvais, gentil contre méchant, et arrêter de croire que le monde est divisé en deux en suivant cette logique. Ce qui se trame avec Israël et ses soutiens, c'est une preuve de plus, s'il en fallait encore. Ce terme de démocratie sonne complètement creux et il ne suffit pas d'en être qualifié par d'autres pourritures pour en être une. Tous les dirigeants sont des tyrans en puissance, capables de tous les coups tordus pour arriver à leur fin, qui n'est jamais le bonheur des peuples, et on n'aura jamais aucun intérêt commun avec cette caste. Et pour se détendre un peu, on va écouter Midas Jacobin, Party with the Jacobin.
Oh yeah.
Oh yeah, na 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 na. Oh yeah, na 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 na. My touch, I got the brighties. She gonna see me mighties. I got the brighties. Says yeah. She wanna party with the Jacobin, because she never met nobody better than baby. Brown them patches like a Jacobin. I ain't never seen nobody better than I say. Baby, do you wanna be a Jacobin? Are you sure you can party with the Jacobin? Says she wanna party with the Jacobin, because she never met nobody better than. Long, long time, baby, you've been on my mind. Long, long time, baby, I've been on my grind. Go for one night, baby, you've been on my mind.
ground. I'm a juggabond, classy, bougie, riffraff. Only fuck with good vibes, Hennessy with no chaser. Only thing I chase is paper. I'm a juggabond, classy, bougie, riffraff. Only fuck with good vibes, Hennessy with no chaser. Only thing I chase is paper.
Only thing I chase is paper. Only thing I chase is paper.
Je suis un membre du réseau Alarmophone Dakar et Layoun. Et je vais juste en parler en ce qui concerne sur la politique migratoire, sur la situation politique du Sénégal, de la Mauritanie et celle du Maroc. Parce que comme vous le savez très bien, il y avait ces derniers mois, il y avait des départs massifs qui s'est passé au Sénégal à cause de la politique et de la répression des autorités sénégalaises qui a fait que les Sénégalais partaient vers les îles Canaries. Et on a pu constater aussi qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont morts à naufragés, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont disparues. Et ça a causé aussi que l'Union européenne, avec la politique du Frontex, avait venu même soutenir la marine nationale pour essayer d'intercepter les départs qui se quittaient au Sénégal. Et ils ont encore débloqué des moyens et des moyens, comme des hélicoptères, des drones, des bateaux et tout, pour essayer de s'intercepter les gens. Maintenant, parce que aussi les gens essayaient de faire des contournements pour continuer à partir jusqu'à après les élections sénégalaises. On a vu qu'il y a moins de départs à partir du Sénégal. Mais c'est après que c'est la Mauritanie qui avait pris aussi encore le relais, que les gens aussi partaient de la Mauritanie vers les îles Canaries. Les gens partirent aussi à Saint-Louis vers les îles Canaries. Et on a pu aussi voir sur les informations que des bateaux même qui ont quitté Mauritanie, qui sont fait des dérives vers l'Amérique latine, particulièrement au Brésil, dans l'Amazone. Et il y en a aussi beaucoup de personnes qui sont disparues en mer. Et aussi, on comptait l'année 2023, il y a 6668 personnes qui sont disparues dans l'océan Atlantique. Voilà, et là aussi, actuellement là, il y a des convois aussi qui continuent de quitter à la Mauritanie pour venir aux îles Canaries. Et ça n'empêche aussi toujours pas que l'Union européenne continue aussi avec sa mauvaise politique du Frontex d'envoyer la Guardia civile à la Mauritanie avec aussi un somme de 250 millions d'euros pour essayer aussi encore une fois de doter les moyens à les autorités mauritaniennes pour qu'ils puissent empêcher les gens de partir. Et ça, c'est la politique de l'Union européenne avec la complicité aussi des États Afrique subsaharienne ou bien Afrique du Nord, parce que cette politique-là, ça se fait à la Mauritanie, ça se fait au Sénégal, mais en même temps aussi, ça se fait au Maroc, d'empêcher les gens à partir, ça, l'externalisation des frontières, la militarisation des frontières, qui est une politique de l'Union européenne, parce que ces pays-là, ils n'ont pas les moyens d'en avoir des drones, d'avoir des moyens d'hélicoptères pour, avec des bateaux aussi sophistiqués, de courir, de chercher les migrants qui partaient et de les intercepter en mer. Alors c'est pour cela que ces jeunes qui même étaient au Maroc, qui n'avaient pas pu rejoindre les îles Canaries, parfois même il y a les gens retournés vers le Sénégal ou bien à la Mauritanie pour commencer à prendre les départs à partir de là-bas pour aller vers les îles Canaries. La politique de la répression, ça continue toujours à exister, soit qu'au Sénégal, soit qu'à la Mauritanie, mais particulièrement aussi au Maroc, que là où nous sommes. Il y a des rafles ces temps-ci au nord et ça s'est passé dans la pandémie en 2020. Ils avaient arrêté les migrants du nord et leur faire éloigner vers le sud, qui a causé une représentation massive du communauté subsaharienne vers le sud. Et ça a causé aussi que les départs s'étaient répercutés aussi du sud aussi vers les îles Canaries, et jusqu'à quand même les migrants avaient essayé de s'installer, d'organiser et continuer à partir. Et je demande encore une fois que ça aussi c'est la mauvaise politique du système de visa, parce que les gens n'arrivent pas à trouver des visas, c'est eux. Il n'y a pas une facilitation d'obtenir un visa, et la migration, comme je disais toujours, que c'est un droit. La personne a le droit d'aller là où il veut, quand il veut, et revenir aussi chez lui, sain et sauf. Mais ce qui nous a causé les jeunes prendre la mer, prendre le désert, et comme vous le voyez, la Méditerranée maintenant est un cimetière, l'océan Atlantique est un cimetière, le désert aussi est un cimetière, ça juste, ça, ça, Ça montre juste que les gens là qui empruntent cette route migratoire là, qui sont des routes extrêmement dangereuses, ils n'ont pas le choix. Parce que pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent toujours pas à avoir des visas. Et comme je disais que les Européens ont la possibilité de venir en Afrique quand ils veulent et là où ils veulent. Mais nous, malheureusement, on n'a pas cette possibilité-là parce que le monde est divisé en deux. Voilà, un monde des personnes qui sont fortes, qui ont eu les possibilités, les moyens d'aller, mais les gens aussi qui sont réprimés, des gens qui sont approvis jusqu'à ce qu'ils n'arrivent même pas à obtenir un visa pour venir en Europe. Et ça continue aussi toujours d'une politique d'essayer d'arrêter et d'empêcher, et c'est pas ça qui arrêtent les migrants, parce que ce sont des personnes, des jeunes qui cherchent leur avenir en pensant que peut-être que l'Europe c'est l'Eldorado, et c'est même pas le cas, mais n'empêche que ils ont le droit aussi d'y venir, et si ça ne leur tente pas, ils retournent chez eux. En tout cas, à Laayoun, actuellement, la situation est toujours chaotique, et quand aussi on voit ce qui se passe aussi dans le nord, c'est toujours aussi chaotique. Il y a des rafles, il y a des arrestations qui sont arbitraires, des personnes arrêtées, éloignées. Et quand on voit aussi la situation de la Tunisie, les migrants qui vivaient au kilomètre 34, les autorités ont parti jusqu'à leur campement, parce que ce sont des gens qu'on leur a empêchés de vivre en ville, et ils sont allés jusqu'à là, jusqu'à dans les champs d'Olivier, pour créer des habitations là-bas. Et la police est venue brûler tout leur camp, arrêter ces personnes et leur faire refouler vers l'Algérie. Et ces gens-là aussi sont encore dans des situations catastrophiques. Ça veut dire que la politique de la migration est une politique meurtrière imposée par l'Union européenne, parce que ce sont l'Union européenne qui finance ces opérations d'arrestation, ces opérations d'agression, ces opérations de répression. Et c'est toujours la complicité de nos États, parce que c'est eux qui acceptent cet argent-là, au lieu de créer des politiques de développement, au lieu de créer de l'emploi pour que les jeunes puissent obtenir de l'emploi, travailler et partir librement, sain et sauf, de ne même pas passer de prendre la route ou bien le désert. Mais malheureusement, cet argent-là, quand il vient à nos États, à nos pays, ce sont les dirigeants qui le partagent et qui le font tout ce qu'ils veulent. Et sinon aussi, je vais juste encore dire une autre chose en ce qui concerne sur notre projet, qui est le projet de centre d'accueil de Laayoun. Ça veut dire que c'est une maison d'accueil qui accueille les migrants qui sont dans les situations précaires, qui sont dans les situations vulnérables, qui sont dans les situations de transit, pour leur, du moins, leur donner un toit pour qu'ils puissent être dignes de leur dignité, et respecter aussi leur dignité humaine. Et c'est pour cela qu'on a encore un appel solennel et remercier aussi toute personne qui nous a soutenus et qui nous a aidés pour la réalisation de ce projet. On lance encore un appel solennel de vous dire que on attend toujours la contribution, l'aide des personnes pour qu'on puisse réaliser cette rêve-là, parce que c'est un rêve vraiment que nous tient à cœur. En tout cas, merci beaucoup la radio, merci beaucoup les animateurs et les animatrices, mais encore une fois aussi, merci solennellement à mon très cher ami Mar. Merci.
Et merci aussi solennellement à toi, mon très cher ami Babacar, pour nous avoir partagé tout ça. On est ensemble et on est beaucoup à lutter pour la liberté de circulation et d'installation pour tout le monde, au sud comme au nord, et pour l'arrêt du régime des frontières et des visas. Par rapport à cette maison à Laayoun, au Sahara occidental, on a déjà fait tourner le lien. Il y a une cagnotte en ligne sur Papayou. Elle s'appelle « Aidez-nous à acheter la maison des exilés à Laayoun ». Si vous tapez les mots-clés « Achetez la maison », normalement ça marche, vous allez la trouver. On a besoin de votre soutien pour que cette maison elle reste un refuge, un lieu de passage, de soins, de célébration. Mais c'est aussi un espace où on organise des funérailles quand il y a des naufrages ou des décès à l'hôpital. Voilà, vous pouvez soutenir en participant financièrement, mais aussi en organisant des événements de soutien et en parlant autour de vous. Merci beaucoup.
Et moi, sur un autre registre, j'avais un appel à manif à lancer pour la fin du mois de juin. C'est le 30 juin, dans la Creuse, à Guéret. Et c'est pour défendre des forêts, en fait, parce qu'il y a grosse menace d'installation d'usines à faire des granules, principalement, pour des poêles à bois, des chaudières. Et ils abattent des chênes centenaires. Et voilà, il y a une grosse mobilisation nationale. On en parlera plus une prochaine fois, parce que là, il est déjà 13h01. Et c'est l'agenda.
Alors, dès ce soir, le vendredi 24 mai, au Vidéodrome 2, nos amis du Gang des Gazières vous convient à une soirée spéciale sur les luttes handi. Plus de détails sur le site du Vidéodrome 2.
Et demain, samedi 25 mai, grosse journée, il va falloir faire des choix. Il y a une formation et présentation proposée par Palestine 13 à Marseille en deux parties, le matin avec Saïd Bouamama à la CIMAD et l'après-midi à la librairie Transit. Plus d'infos sur Mille Babord, par exemple.
Encore ce samedi 25 mai à 16h, riposte contre les attaques et les lois transphobes. Manif populaire pour les droits des personnes trans au Vieux-Port.
Et samedi, toujours, conférence de Colette Brickman, autrice du livre Le Cri muet des collines, qui se passe dans l'est du Congo. La guerre tourne en rond. C'est sur, voilà, c'est 30 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est à 17h au théâtre Le Tourki, 16 passage Léo Ferré.
Toujours samedi à 17h30 à la Bourse du Travail, boulevard Nedelec à côté de la gare. Il y a une rencontre débat organisée par le FUIQP, Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, sur le thème « Les peuples africains en quête d'une seconde indépendance », le cas des pays du Sahel, et ce sera également animé par Saïd Bouamama.
À 18h à la DAR, il y a un concert de soutien « Maraude Virage de Paix », collectif solidaire de supporters marseillais qui organise une maraude chaque vendredi, un soutien alimentaire, matériel et sanitaire aux personnes dans le besoin.
Dimanche 26 à 15h devant les Baumettes, rassemblement devant la prison pour apporter du soutien aux personnes enfermées et contre les violences carcérales.
Et dimanche également à 14h, il y a la manif Palestine et à 17h à la DAR, il y a une écoute d'une rencontre autour des violences sexuelles. L'entrée est à prix libre et sera réversée à la caisse de soutien aux IVG du planning familial.
Jeudi 30 et 31 et vendredi 31 mai, une journée d'études IMERA, Université d'Édimbourg. Le Nexus, je ne connais pas ce mot, Nexus méditerranéen des migrations d'Afrique vers l'Europe, des solidarités aux luttes infrapolitiques. Ça se passe à l'IMERA, maison des astronomes de Place Le Verrier. Plus d'infos sur le site imera.fr.
Et jeudi 30 mai à 19h à Manifesten, rue Thiers, le Cercle des nageuses en eau trouble propose la projection d'un documentaire Toute la beauté et le sang versé, avec un buffet à prix libre et une intervention de personnes impliquées dans la RDR, réduction des risques, pour faire un point sur la situation en France concernant l'oxy et le fentanyl.
Et c'est la fin de ces infos.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et maintenant c'est l'heure de l'agenda informatique.
Alternatif.
Bisous, à
ciao,
bientôt.
Ciao.
À bientôt. Ciao.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.